Ensemble sur Calade.
Allez, il est l'heure de retrouver le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, la politique industrielle, on en est au...
Troisième épisode, messieurs, dames. Troisième et dernier épisode. Après, on pourra parler de choses plus légères. Donc, dans nos parties précédentes, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que la politique industrielle, ça consiste pour la puissance publique à utiliser tout un tas de moyens pour favoriser le développement ou à minima le maintien d'une activité industrielle dans notre pays en France, mais aussi dans l'Union européenne. On va parler aux deux niveaux, hein, toujours. On a vu que cette politique a été menée activement par les gouvernements français après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 80. Mais qu'à partir de là, la conception allemande au niveau européen et même au niveau français, la conception allemande qui est très différente s'est imposée. Et la conception allemande, c'est que l'intervention se limite strictement à faire respecter les bonnes conditions de la concurrence. C'est ce qu'on appelle la politique de concurrence. C'est cette conception qui s'est imposée à partir des années 80 dans l'Union européenne et en France. Donc, exit la politique industrielle à l'ancienne, en quelque sorte. Dans la deuxième chronique, on a vu que les 30 dernières années, entre les années 80 et aujourd'hui, eh bien, ça a été celle d'un déclin progressif et irrésistible de l'industrie française. Et on a donc convenu, Mathieu, dans cette troisième chronique, de parler du retour en grâce de la notion de politique industrielle, aussi bien en France que dans l'Union européenne. Mais avant, je vais répondre à une question que tu as posée hors antenne, cher Mathieu, qui est la suivante. Si les 30 dernières années ont été, on l'a compris, celles du déclin industriel en France, est-ce qu'il en a été de même dans le reste de l'Union européenne ? Eh bien, la tendance globale dans les pays d'Europe de l'Ouest, hein, soyons précis, comparons ce qui est comparable, a été identique ces 25 dernières années, c'est-à-dire un recul de la part de l'industrie dans le PIB de chaque pays. Ouais. Mais l'Allemagne en particulier et l'Europe du Nord en général sont des zones où ce recul a été bien plus réduit. Il a été maintenu, ce recul. Dans des limites acceptables. Des chiffres pour illustrer ça, la part de l'industrie dans le PIB allemand est de 22%. Je rappelle que la France, c'était 13-14%. La part de l'Allemagne, de l'Autriche, c'est identique. La part de la Suède et du Danemark, c'est pas loin derrière. Même le Portugal et la Belgique font mieux que nous, 3 points de plus. D'accord ? Notez que depuis 2000, ce recul se voit aussi aux États-Unis.
D'accord.
Et se voit aussi, devine quoi, en Chine.
Ah ouais, ah pourtant on a l'impression que c'est eux qui récupèrent.
Mais ça nous dit une chose, ça nous dit qu'il n'est pas illogique que la part de l'industrie dans la création de richesses d'un pays moderne recule, hein, parce que le pays atteint un stade où c'est du post-industriel qui prend le relais. Le problème, c'est que la France recule plus que ses principaux pays concurrents. La question, c'est pourquoi ? La question que tu m'avais posée, c'était pourquoi ?
Pourquoi la France
Voilà. Eh bien, une des principales raisons, ce ne sera pas la seule, mais je vais m'arrêter sur celle-ci parce qu'on a autre chose à faire, sinon il faut qu'on fasse cette troisième chronique. En comparant avec les pays d'Europe du Nord, Allemagne comprise, c'est que notre industrie, je mets de côté l'industrie du luxe, qui est un cas particulier en France, mais pour le reste de l'industrie française, eh bien, cette industrie française n'a pas su sortir suffisamment de ce que j'appelle l'ornière de la compétitivité prix. La compétitivité prix, c'est être compétitif en étant le moins cher possible. Or, la France, enfin les autres pays d'Europe du Nord et l'Allemagne, ont évité ça en allant dans ce qu'on appelle la compétitivité hors prix, c'est-à-dire vendre de l'innovation, vendre du prestige, vendre de l'image de marque, etc. Tout ce qui permet de justifier des prix plus élevés. Le problème, c'est qu'en face, il y a un paquet de pays qui avaient des atouts autrement plus sérieux que nous pour faire des prix bas, faire de la compétitivité prix. Donc, notre industrie a plus reculé que les industries d'Europe du Nord. Bref, venons-en maintenant au cœur de notre chronique d'aujourd'hui. C'est quoi cette nouvelle politique industrielle qui réapparaît depuis le Covid ? Bah oui, le Covid, lors du Covid, on s'est vite aperçu dans l'Union européenne du caractère stratégiquement dramatique de nos dépendances vis-à-vis de la Chine. Et depuis qu'on a compris que la transition écologique dans tous les pays doit se faire en diminuant cette dépendance vis-à-vis de l'Asie en général et de la Chine en particulier. Alors, côté Union européenne, je vais d'abord commencer par l'Union européenne, par la politique industrielle version Union européenne. Eh bien, évidemment, je vais m'arrêter uniquement aux mesures qui ont un caractère de nouveauté. Je vais laisser les mesures qui sont la continuation de la politique de la concurrence. C'est vraiment cette période du Covid qui a accéléré ce que j'appelle le changement de paradigme dans l'Union européenne, d'accord ? Les mesures avant, c'était quoi ? C'était des mesures ponctuelles d'exemption. On disait, tiens, tel secteur, on va accepter des aides d'État, mais c'était extrêmement rare, d'accord ? Dans la règle générale, c'était interdiction d'aides d'État au secteur industriel en général. On est passé à un nouveau paradigme où on va dire, oui, il y a un certain nombre de secteurs bien plus nombreux qu'avant, pour lesquels on autorise des aides d'État. l'Union européenne autorise que les pays individuellement, les puissances publiques, aident les entreprises dans ces secteurs donnés sous la forme d'appels à projets, en quelque sorte. Tous ces secteurs, c'est massivement des secteurs des technologies numériques et des énergies renouvelables. Et donc aussi une grande attention portée à ce qu'on pourrait appeler l'autonomie technologique de l'Europe, c'est-à-dire l'idée que l'Europe devienne de moins dépendante des États-Unis et de l'Asie pour la technologie. On est mal barré. Enfin, je dirais, il y a du boulot, ouais, quoi, en quelque sorte. Cette stratégie, elle, en 2021, a donc complété la stratégie qui était en place à partir de mars 2020. Alors, diverses mesures concrètement pour traduire ce que je viens d'expliquer. Des mesures pour réduire la dépendance dans certaines matières premières, dans certains principes actifs de médicaments, dans certains composants comme les semi-conducteurs, on a fait une chronique il y a longtemps. Des mesures pour favoriser le développement d'alliances industrielles dans des domaines stratégiques comme les processeurs, les semi-conducteurs, les données industrielles, le cloud, les lanceurs spatiaux, l'aviation à émissions nulles. Tout ça, on incite à des alliances industrielles entre entreprises privées européennes. Le but, c'est de rendre l'Union européenne autonome dans tous ces domaines. Des mesures pour accélérer la transition écologique. D'accord ? Il s'agit d'atteindre ce fameux objectif de 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030. 50% par rapport au chiffre de 1990.
D'accord, ouais.
Donc, beaucoup de mesures pour aider à atteindre cet objectif, donc du soutien à de l'industrie dans ce domaine-là. Des exemples emblématiques. Eh bien, on a eu une initiative franco-allemande sur les batteries, avec une levée de fonds, alors un apport de fonds d'1,2 milliard d'euros de la puissance publique franco-allemande et un objectif de lever des fonds privés pour compléter à hauteur de 5 à 6 milliards d'euros. Même type de projet sur l'hydrogène, d'accord ? On a une quinzaine de projets autour du projet global hydrogène avec 7 milliards d'euros de financement public à l'horizon 2030 dans ce domaine-là. Quelques nouveautés dans la politique industrielle, des nouveautés notables. On parle maintenant ouvertement de mettre en place des mesures de défense commerciale face aux politiques de dumping qui est la pratique généralisée de la Chine depuis 20 ans. On parle même de projets, de mesures d'ajustement carbone aux frontières qui consisteraient à dire « eh bien, on va taxer les entreprises qui, elles, n'ont pas à supporter toutes les exigences que les entreprises européennes ont vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre ». Bon, c'est pas gagné, il y a encore des négociations, des pays sont réticents à mettre ça en place, mais on en parle, avant c'était tabou. Alors, si on parle un peu d'argent, bah, on a déjà en 2020 un plan de relance européen qui a quand même posé sur la table 750 milliards d'euros, c'était pas rien. On a eu ensuite, sur la période 2021-2027, 96 milliards d'euros qui s'ajoutent en soutien à la recherche et à l'innovation. Donc des sommes non négligeables, mais disons-le clairement, ce n'est pas encore au niveau des montants qu'investissent d'un côté les Américains, d'autre côté les Chinois.
C'est pas suffisant.
Non, c'est pas encore au niveau. Passons au niveau français maintenant, parce que là, j'étais au niveau européen. En 2021, on a annoncé un plan qui s'appelle le plan France 2030, avec 54 milliards d'euros sur 5 ans pour agir dans des domaines comme l'hydrogène vert, les énergies renouvelables, la décarbonation de l'industrie, etc., etc. Ce plan s'ajoute au plan de relance français de 100 milliards d'euros en 2020, qui fixait des axes assez proches. Donc vous voyez, au niveau français, aussi certaines sommes non négligeables pour vraiment aller très activement dans de la politique industrielle. Tout ça, c'est donc ce que propose l'Union européenne à la France en termes de politique industrielle. Désormais, on est revenu sur une vraie politique industrielle. Mais on n'est pas seul au monde, messieurs, dames. On a en face de nous des concurrents et on va se centrer sur deux grands concurrents, les États-Unis et la Chine. Et ils ne sont pas en reste, hein. Ils ne sont pas restés à faire dodo. Donc, les États-Unis d'abord. Eh bien, le 16 août 2022, le Congrès américain a voté une loi qui s'appelle Inflation Reduction Act, l'acte de réduction de l'inflation. Et dire, ah bon, c'est une loi sur l'inflation? En fait, pas du tout. C'est une loi qui n'a rien à voir avec l'inflation. C'est une loi pour réindustrialiser les États-Unis avec un axe prioritaire de réindustrialiser dans le domaine de l'industrie qui aide à lutter contre le réchauffement climatique.
D'accord.
Bon, alors, vous allez me dire, bon, c'est des montants assez costauds, mais ce n'est pas tellement le montant global en dollars qui est inquiétant dans ce plan, qui est vis-à-vis pour les Européens. C'est en fait le fait qu'il contient des mesures protectionnistes. Je m'explique. Il contient des mesures qui sont destinées à attirer sur le sol américain des entreprises du monde entier, dont des entreprises européennes et asiatiques et américaines, etc. Comment ? Eh bien, en imposant des conditions pour bénéficier de l'aide financière de ce plan. En gros, les conditions, je simplifie, c'est produire sur le sol américain. Ouais. Donc, on se retrouve avec des entreprises européennes, par exemple, des grandes entreprises industrielles européennes, allemandes notamment, très puissantes, qui se retrouvent avec un dilemme. puisqu'elles avaient prévu d'investir sur le sol européen vis-à-vis des plans industriels que j'ai cités précédemment. Sauf qu'en face, elles se retrouvent avec le plan américain qui propose à peu près les mêmes sommes, avec en plus un accès à un marché américain qui est toujours plus assez costaud quand même par rapport au marché européen, hein, mais surtout avec un coût de l'énergie qui est extrêmement bas aux États-Unis.
Ah ouais.
Les États-Unis sont autosuffisants sur le plan énergétique. Donc, ils ont un coût d'énergie alors que le prix de l'énergie a explosé en Europe. Et là, donc, ça fait quand même un gros dilemme parce qu'ils sont très attirés par ce plan américain et ils sont très tentés de délocaliser et de, ou alors de ne pas réaliser les investissements en Europe pour aller les réaliser sur le territoire américain. Passons à l'Asie maintenant.
Ouais.
Pour info, l'Union européenne est avec le Japon la zone économique qui a le plus reculé face au développement de l'Asie. Or, donc c'est elle qui en a plus le prix plein la figure. Parlons de la Chine à l'intérieur de l'Asie, c'est quand même le poids lourd, le mastodonte. La Chine, elle a mis en place des plans d'investissement massifs, elle aussi, par exemple, 130 milliards d'euros juste pour les semi-conducteurs, ce qui est très au-dessus de ce qu'a mis sur la table l'Union européenne. Les seules importations chinoises, je donne quelques chiffres pour bien montrer la pénétration de l'industrie de la Chine dans le territoire de l'Union européenne. Les seules importations chinoises représentaient 6% des importations de l'Union européenne en 2000.
D'accord.
C'est passé à 11% lors de la crise de 2008-2009. C'est passé à 14-15% juste avant le Covid. Et on est à 18% aujourd'hui. Donc
ça
on voit que la Chine pénètre de plus en plus par ses performances l'économie européenne et est de plus en plus présente. À terme, on sait très bien que l'économie russe va être globalement intégrée dans l'ensemble chinois parce que la Russie n'a pas de choix, vu qu'elle est en conflit avec l'Occident, de se, entre guillemets, soumettre aux géants chinois. Et ça va encore accentuer la puissance d'influence de la Chine. Donc voilà, alors, conclusion globale de cette trilogie sur la politique industrielle et sur ces nouvelles velléités de l'Union européenne et de la France de revenir à une vraie politique industrielle, eh bien, le changement de doctrine donc, de l'Union européenne, le retour de la politique industrielle, c'est un point de départ intéressant, mais ça ne suffira pas en l'état pour affronter les Chinois et les Américains. L'Union européenne, pour autant, a montré ces toutes dernières années, depuis le Covid, qu'elle sait être beaucoup plus réactive qu'autrefois. D'accord. Et ça, c'est un point très intéressant.
Ouais.
Et donc, on verra si elle saura se mettre à niveau et prendre sa place dans ce combat de titans ou si elle reste dans son comportement d'avant qui est de traîner et prendre du retard. Voilà. À suivre.
Ok, très bien. Et bah, pour une saison 2 dans quelques mois.
Exactement.
Merci beaucoup, prof Patrick. À bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.